7h25, le nombre de cas de COVID augmente au Québec. C'était prévu avec la rentrée scolaire et la tendance va se poursuivre sans aucun doute durant les prochaines semaines. La grande question, c'est comment le Québec fait pour, je dirais, contrôler un peu cette nouvelle vague avec moins d'hospitalisation que ce qu'on a connu avec un niveau de vaccination. Je rappelle les chiffres. Il y a 81 % des Québécois qui ont reçu deux doses jusqu'à maintenant. Et une dose, là, c'est 87 %. Donc, c'est un degré très, enfin, un taux très élevé au sein de la population, toujours chez les 12 ans et plus. On fait le point avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Quand vous regardez les chiffres, le fait que le nombre de cas augmente avec la rentrée scolaire ou la rentrée tout court de septembre, en même temps, ça semble moins dur sur le réseau de la santé. Avez-vous l'impression qu'on va naviguer dans ces semaines-là avec ce pourcentage de gens vaccinés sans trop de dommages?
Moi, je pense que oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même le dire, on se l'est dit à plusieurs reprises, le taux de vaccination au Québec est l'un des plus forts sur la planète. On sait que maintenant, il y a une très, très forte proportion de Québécois qui est vacciné. Le vaccin n'est pas 100% efficace, ça on le sait. Il y a des gens vaccinés qui vont attraper la COVID, mais les vaccinés qui vont attraper la COVID et qui sont en santé n'iront pas à l'hôpital, ils ne seront pas très malades. On l'a déjà dit, le taux d'hospitalisation, grosso modo, quand on est vacciné par rapport aux non-vaccinés, le risque est 25 fois plus élevé. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit surtout des gens non-vaccinés, relativement jeunes, donc des gens dans leur quarantaine, cinquantaine, début de soixantaine, parfois même, souvent même, en pleine forme, des gens qui n'ont pas de gros problèmes médicaux, qui ne sont pas vaccinés et qui tombent assez malades pour être hospitalisés et certains vont même aux soins intensifs. Je vous dirais que le réseau résiste relativement bien. Il y a une chose qu'il faut noter, comme ce sont des patients plus jeunes, eh bien souvent ils ont besoin de plus de soins intensifs, donc la proportion d'hospitalisés aux soins intensifs par rapport au nombre total est plus élevée. Je vous donne un exemple. Il y a des hôpitaux, si vous aviez... Dans le passé, on va donner des chiffres arbitraires, mais 20 hospitalisés, il y en avait, disons, 5 aux soins intensifs. Là, vous avez 20 hospitalisés, il y en a 9, 10 aux soins intensifs. Donc, vous occupez proportionnellement plus de lits de soins intensifs. Et quand vous avez des lits de soins intensifs occupés pour ça, ben, vous ne pouvez pas faire des chirurgies complexes, vous ne pouvez pas faire de la chirurgie cardiaque. Donc, il y a un ensemble d'autres choses sur lesquelles ça a un effet un peu ricoché. Mais... moi, je pense que le système, globalement, va tenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que la société québécoise a été rouverte. Donc, on va à l'école, on peut aller au restaurant, on peut faire du sport, on a des activités culturelles, on est capable de se réunir jusqu'à un certain point. Et grâce au vaccin, on est capable de faire tout ça. Ça va continuer. On va continuer de fonctionner comme une société presque normale. Mais on va devoir payer un petit prix qui est d'avoir des cas chez des non-vaccinés, entre autres, qui vont nécessiter une hospitalisation et qui vont créer un certain poids sur le système.
Quand vous regardez ailleurs dans le monde, d'autres pays, d'autres sociétés qui ont peut-être connu la vague, la quatrième vague avant nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de leurs expériences?
Ben, la première expérience, c'est probablement Israël qui a vacciné massivement. Donc, on a vu qu'après un certain temps, donc à peu près, on va dire environ 8 mois, que l'immunité des deux vaccins semble diminuer chez des gens plus âgés ou des gens qui sont à risque de faire des complications. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'ailleurs, même y compris au Québec, on commence à donner une troisième dose à des patients dialysés, des patients très immunosupprimés, qui sont plus à risque parce que ces gens-là ne répondent pas si bien que ça aux deux doses de vaccins. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de continuer à pousser pour la vaccination chez les gens qui ne l'ont pas encore été, même si on sait qu'on est arrivé à un taux très, très élevé actuellement. Mais il y a peut-être encore quelques pourcents qui peuvent être gagnés, surtout chez des gens, on va dire, qui risquent de prendre des lits d'hospitalisation. Donc, les gens qui ont 40 ans en montant, ces gens-là, ben je pense que s'ils ont encore le désir d'être vaccinés, sans que ce soit une obligation, ben c'est sûr qu'il faut les encourager, puis c'est important de... Et puis, on n'arrivera pas à une immunité de groupe, donc même si on avait 100% des gens vaccinés, parce que le virus change, parce que le vaccin n'est pas efficace à 100%, parce qu'il y a des gens doublement vaccinés, très malades, qui finissent quand même à l'hôpital, mais ils sont moins malades que les gens non vaccinés beaucoup plus jeunes. Donc ça, c'est aussi important à le dire. Donc si on est capable de pousser encore un peu les quelques hésitants qui veulent se faire vacciner, qui sont sur le bord. Je pense qu'ils peuvent s'aider eux-mêmes et aider leur entourage, c'est ça le plus important. Puis je pense qu'il faut continuer aussi à garder tout ce qui est un dépistage puis un traçage agressif, c'est-à-dire de continuer à, par exemple, lorsqu'il y a une éclosion quelque part, de rapidement dépister tout le monde. On voit qu'au Québec, les chiffres sont probablement sous-estimés parce qu'on ne fait pas un nombre de tests très, très élevé. On fait en moyenne 20, 25 000 tests par jour, c'est variable, mais on n'est pas à 40, 45 000 tests comme on l'a déjà été dans le passé. Et probablement qu'il y a des gens pas très malades qui ne vont pas se faire dépister. Donc ça, c'est l'autre point. Puis finalement, je vous dirais le dernier point qui va être à surveiller, ça va être l'extérieur, c'est-à-dire la surveillance au niveau des frontières. Là, on a ouvert les frontières à beaucoup plus de monde. Je pense que d'abord, on voit que l'organisation s'en est parlé à l'arrivée.
Ouais, ouais.
N'est pas extraordinaire, faut faire attention. Puis on sait aussi qu'il y a des gens qui parfois viennent avec des tests qui sont de faux résultats, etc. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas faire introduire d'autres chevaux de Troie ou d'autres variants dans notre environnement.
Pour les écoles, vous le disiez la semaine dernière, important aussi de déployer les mesures qui existent, les tests rapides pour lesquels le Québec a levé le nez pendant longtemps, là, mais semble-t-il qu'on commence, et la qualité de l'air, la ventilation dans les classes.
Tout à fait. Il faut faire, on va dire, flèche tout bois dans cette histoire-là. Le cheval de Troie, pour nous, c'est évidemment les enfants d'en bas de 12 ans qui ne sont pas encore vaccinés parce qu'on ne peut pas les vacciner. Souvent, ils ne sont pas très malades et il faut continuer à les envoyer à l'école. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut plus se permettre de fermer les écoles et de garder les gens à la maison. Il faut qu'ils aient accès à l'école, à leur développement, leur apprentissage, leurs contacts sociaux. Donc, et ils ne sont pas très malades, donc c'est déjà, quand ils arrivent à cet âge-là, habituellement, ils sont peu malades. Bien sûr, malheureusement, il y a toujours des cas exceptionnels, mais habituellement, heureusement, les enfants sont peu malades. Mais il faut vraiment faire, flèche de tout bois et garder le traçage, regarder le dépistage, s'assurer que, par exemple, le port du masque soit le plus disponible et faisable possible. Donc, l'ensemble des mesures pour que il n'y ait pas d'éclosion dans les écoles et qu'elles puissent continuer à fonctionner pour toutes sortes de raisons, pour pas que ces enfants-là infectent l'entourage, pour pas que les écoles soient fermées. Donc, un ensemble de facteurs et il faut vraiment continuer à garder les écoles ouvertes.
Bon, je veux vous entendre sur le vaccin pour les moins de 12 ans. Il y a beaucoup de parents qui me posent la question suivante. Comme les effets sont moins graves de façon générale pour les tout-petits, comme l'entourage est vacciné, est-ce que c'est vraiment, ou en fait, est-ce que ce sera vraiment nécessaire de faire vacciner les enfants, les bébés?
Ben, je vous dirais, les bébés, oui. D'abord, il faut savoir que souvent, c'est en bas de 12 ans qu'on reçoit le plus de vaccins dans notre vie. Hein. Il faut savoir que la majorité des vaccins qu'on reçoit, on les reçoit à la naissance, les premières années de vie, et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'arriver souvent à l'âge adulte. Donc, cet aspect-là de « est-ce que j'ai peur des vaccins ?» On sait très bien que la majorité des gens reçoivent leur vaccin quand ils sont jeunes. La deuxième chose, c'est que on s'aperçoit aussi, il y a des études qui montrent que la COVID, même si elle est légère chez des adolescents, ou même chez un peu moins de données chez les jeunes enfants, et là, il faudrait demander à mes collègues pédiatres qui sont certainement plus au fait que moi, mais on voit qu'il y a des études qui sortent et qui montrent que même dans les COVID légères chez les plus jeunes, on parle plus des adolescents ici, il reste des séquelles parfois à long terme, donc de la fatigue, des problèmes de concentration, etc. Donc, même si les enfants vont pas être très malades, n'iront pas à l'hôpital, etc., est-ce que les enfants qui vont avoir eu la COVID vont avoir plus de fatigue, est-ce qu'ils vont être moins concentrés, etc.? Il y a des choses aussi qu'il va falloir regarder à ce niveau-là. Et donc, il ne faut pas non plus penser que la COVID, à long terme, dont on ne connaît pas encore tous les effets, mais dont on commence à connaître les effets, il faudrait penser que c'est une maladie qui est beaucoup plus légère chez les enfants, mais qui n'est peut-être pas totalement bénigne non plus. Alors, oui, il faut attendre les études, il faut attendre le fait que la vaccination soit approuvée chez les enfants, mais une chose qui est quand même très intéressante, d'habitude, on donne beaucoup de vaccins en pédiatrie, puis on regarde la sécurité dans le monde pédiatrique, puis après ça, des fois, on en donne un peu aux adultes qui en ont besoin. Là, ce qui est arrivé, c'est un peu le contraire. On a vacciné les adultes, les adolescents de façon massive. Et c'est cette donnée-là qui va nous permettre de voir comment ces vaccins-là sont sécuritaires et on va pouvoir les donner aux enfants où toute l'expérience des adolescents et des adultes sera là. Donc, moi, je ne pense pas que c'est un problème qui est majeur. Et il ne faut pas que les enfants, d'ailleurs, on voit qu'une grande proportion des gens qui sont testés au Québec actuellement sont des 0 à 9 ans. Donc, la proportion des 0 à 9 au Québec testés par rapport à l'ensemble des tests est un beaucoup plus grand nombre que ce que représente ce groupe d'âge-là dans la population générale. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de cas dans ce groupe d'âge-là de façon disproportionnée. On parlait d'Israël il y a quelques moments. Vous savez, en Israël, ils ont eu beaucoup de cas, mais 40% des cas survenaient chez les moins de 20 ans et 20% chez les moins de 10 ans. Donc, on voit qu'il y a une très grosse proportion qui survenait dans ce groupe de la population qui, à ce moment-là, était peu vaccinée. Puis c'était un peu la même chose en Grande-Bretagne. Donc, ça montre que quand le virus se propage dans une population, il frappe d'abord les non-vaccinés. Et on a vu aussi des enfants récemment qui ont été atteints, très malades, mais dont les parents non-vaccinés sont aujourd'hui aux soins intensifs. Des parents dans la quarantaine, fin de la quarantaine, début de la quarantaine, qui, eux, n'étaient pas vaccinés et dont la conséquence que les enfants ont amené le virus à la maison, ces gens-là ont infecté les parents.
Merci, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste à l'hôpital général juif de Montréal. Juste pour vous donner quelques chiffres, dernier tableau là, du ministère de la Santé, les ados 12 à 17 ans, 2 doses, 75%. Les 18-29, 69%. Les 30-39, 73%. Et à 40 ans et plus, là, ben, on est dans les 80%. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de jeunes adultes qui ne sont pas vaccinés, en tout cas qui n'ont pas reçu les deux doses, qui ont déjà reçu une première, puis qui ne sentent peut-être pas le besoin d'en avoir une deuxième. Or, on sait qu'on a besoin de cette protection-là. L'autre point que je veux faire, parce que circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux une entrevue que j'ai réalisée au mois de février, j'insiste, c'est au mois de février, avec le docteur Richard Marchand, qui est microbiologiste à l'Institut de cardiologie. Et les anti-vaccins, qui reprochent évidemment aux médias traditionnels de diffuser des fausses nouvelles, s'amusent à propager cette entrevue-là, évidemment en disant pas que ça remonte au mois de février, en triturant l'entrevue et en faisant passer le docteur Marchand pour un anti-vaccin, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il nous a dit dans l'entrevue à l'époque, c'est qu'il voulait attendre de voir certaines données. On est en février. On a contacté le docteur Marchand, qui n'est pas content de voir qu'on utilise son nom de cette façon-là. Et il nous a précisé qu'il avait reçu 2 doses d'AstraZeneca. Donc, il est doublement vacciné. C'est sûr que les anti-vax n'iront pas, évidemment, faire le correctif. Mais moi, je tenais à le faire parce que là, je me faisais apostropher par des gens, même de mon entourage, qui me disaient « Coudonc, tu fais une entrevue avec un médecin la semaine passée qui n'était pas d'accord avec la vaccination. » Ce qui n'est pas le cas. Donc, je répète, le docteur Marchand vacciné 2 fois avec AstraZeneca.